Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Je vous invite à faire deux lectures. La première, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, à partir du premier verset. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et au verset 9, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et dans l'évangile de Marc, nous lirons le récit que nous avons lu hier dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 de l'évangile de Marc, à partir du premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut sorti, puis hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et briser les liens, les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Notre réflexion d'hier nous a fait découvrir dans ce possédé ce qu'est la liberté sans Dieu. Jusqu'où peut aller la liberté sans Dieu? Et jusqu'où même elle va en fait? Car l'enfer est encore pire que ne l'était l'état de cet homme. L'homme est la proie de mirages. Il pense qu'en se délivrant de la pression de la société, en se délivrant de la morale, en se délivrant des autres, il pourra enfin accéder à la liberté. Sa liberté naturelle pourra enfin s'épanouir. Mais sur toutes ces avenues de la liberté, l'homme rencontre l'esclavage. Il est comme l'homme dont on a parlé ce matin, qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent, le remède est pire que le mal. Et toutes ces illusions viennent d'une illusion fondamentale. L'homme pense être libre en échappant à Dieu, ou tout au moins en se passant de lui. Cette vision erronée des choses est le résultat de la chute. La seule possibilité pour l'homme de retrouver la liberté qui a été perdue par Adam, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Hors de Dieu, l'homme ne peut pas être libre, car il a été créé pour vivre avec lui. Un être ne peut être libre que dans son élément. Un poisson n'est libre que dans l'eau. Un oiseau n'est libre que dans l'air. Et l'élément de l'homme, c'est Dieu. L'élément de l'homme, c'est l'amour de Dieu et la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il trouve sa liberté. Nous savons que l'homme pécheur ne peut pas être en Dieu. Il est chassé loin de lui. Il est privé de sa gloire. Mais nous savons aussi que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et par sa mort et par sa résurrection se vérifie cette phrase qui, dans la bouche des pharisiens, était une critique à l'égard de Jésus, mais qui en fait représente l'œuvre de Jésus-Christ. Il accueille les pécheurs. Jésus-Christ accueille les pécheurs. L'homme exclu de Dieu trouve en Christ accès auprès du Père. Il trouve, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, accès au moyen du sang de Jésus-Christ, il trouve une libre entrée dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Il peut s'approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et retrouver en Dieu cette liberté qui avait été perdue par Adam. La brebis égarée dans le désert peut retrouver le bercail. Et le fils perdu est tombé dans l'esclavage de ce qu'il avait pensé être la liberté. Il peut retrouver la maison du Père, où la liberté est faite de pain, de joie et d'amour. Et l'homme de Gadara, lui aussi, a été soustrait à la domination des forces qui ruinaient son âme et son corps. Le Fils l'a affranchi et il est devenu réellement libre. Il est passé de l'environnement des démons, du cercle des démons, à l'environnement de Dieu, à la domination de Dieu. Et comme le dirait l'apôtre Paul, il a cessé d'être esclave du péché pour devenir esclave de la justice, esclave de Dieu. Il est passé d'un maître à l'autre, des ténèbres à la lumière, de Satan à Christ. Ses yeux se sont ouverts et son cœur s'est ouvert à une autre forme de liberté. Son cœur même a été changé. Et ainsi, il va nous donner, par son attitude, l'exemple de ce qu'est la liberté en Dieu. Le premier détail que remarquent les gens venus de la ville pour le voir, c'est qu'il est assis. Il est dans l'attitude de quelqu'un qui se repose ou qui écoute. Ce n'est pas dans cette attitude que l'on se représente généralement un champion de la liberté. Les héros de l'indépendance auxquels on élève des statues sont dans une attitude beaucoup plus virile et beaucoup plus martiale. On les représente à cheval ou alors marchant résolument vers l'avenir pour entraîner les autres à leur suite, ou alors en train de briser des liens dans un effort surhumain. Notre héros de la liberté chrétienne est tout simplement assis. Et par la position de son corps, il ressemble davantage au penseur de Rodin qu'à la frise de la Marseillaise que l'on peut voir sur l'Arc de Triomphe à Paris et qui attend d'élan. Le fait est que lorsqu'il était la proie des démons, il avait une altitude beaucoup plus exaltante. Le corps en mouvement, les yeux farouches, la bouche ouverte, les cheveux et la barbe flottant au vent. Il aurait pu faire un assez bon modèle de champion de la liberté. Il s'en était donné du mouvement. Il était dévoré par une agitation perpétuelle. Il avait brisé les liens, il avait crié, il avait hurlé, comme le font ceux qui réclament la liberté. Il avait mené rudement son corps, il s'était consumé dans une recherche passionnée. Il avait toujours cherché, sans jamais rien trouver que l'esclavage. Et maintenant, il a enfin trouvé. Et il s'assied. Maintenant, il se repose en son Sauveur. Il sait qu'à la croix, tout a été accompli. Que tout a été accompli pour sa liberté. Il ne cherche plus à la gagner lui-même, à l'arracher lui-même. Il la reçoit par la foi. Et le Saint-Esprit lui donne la certitude intérieure que son salut est acquis, que Dieu l'a rendu à la vie avec Christ, qu'il l'a ressuscité, qu'il l'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, Il ne connaît pas ces versets de l'Épître aux Éphésiens, et pour cause, ils n'ont pas encore été écrits. Mais ils décrivent sa position. Et de même qu'il est assis sur une pierre, près des sépulcres, il avait tenté. De même, il est assis dans les lieux célestes. Son salut est parfaitement assuré. Il jouit, comme David, d'une alliance éternelle en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité. Et comme l'auteur du psaume 116, il peut dire « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Cet homme, assis près du lac de Tibériade, se repose enfin de ses années de lutte, d'égarement, parce que l'Éternel lui a fait du bien. Ce repos de l'âme est l'œuvre de Dieu. C'est la marque du salut. Qu'on ne vienne pas le troubler par des réflexions stupides sur l'inconfort de la foi, sur le risque de la foi et d'autres choses de ce genre. Il y a assez de fausses doctrines qui fatiguent les âmes, qui épuisent les âmes et qui, en fin de compte, les ruinent. L'Évangile apporte à l'âme le repos. Les pharisiens ne pensent qu'à charger des fardeaux sur les épaules des autres. Jésus est celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La caractéristique fondamentale de la liberté chrétienne, c'est qu'elle n'est pas une conquête de l'homme, elle n'est pas le résultat de ses entreprises, de ses peines, de ses efforts. Elle est un don de Dieu. Elle a été acquise par un autre, par Jésus-Christ, et donnée par lui. Le peuple d'Israël ne s'est pas délivré de Pharaon par ses propres moyens. Dieu a refusé la première méthode de Moïse lorsqu'il se croyait capable de soulever le peuple contre les Égyptiens. Dieu a refusé le Moïse terroriste et il l'a envoyé pendant 40 ans dans le désert parce que Dieu voulait un Moïse ambassadeur. Dieu s'était réservé l'honneur de sauver lui-même son peuple par les moyens qu'il avait choisis et de faire à Israël cadeau de sa liberté. Je suis, moi, l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et de même, en Jésus-Christ, Dieu s'est réservé l'honneur de sauver parfaitement et complètement. Celui qui est sauvé n'accomplit point d'œuvre. Et l'ancien possédé de Gadara, assis près de Jésus, en donne l'exemple. C'est Christ qui a lutté pour lui. C'est Christ qui est mort, crucifié pour lui et pour sa liberté. Et lui, il la reçoit simplement dans la paix et la confiance. Nous aurons encore d'autres choses à remarquer tout à l'heure dans l'attitude de cet homme. Mais avant que nous n'allions plus loin, je serais très heureux que nous puissions tous chanter et rendre témoignage de cette paix que Jésus-Christ donne à celui qui vient à lui. Nous pourrions tout simplement chanter les deux premières strophes du cantique 411. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Second détail dans l'attitude de cet homme, il est vêtu. Il ne conçoit plus le vêtement comme une atteinte à sa liberté. Et il se plie de très bon gré à cette habitude générale qui veut que l'on porte un vêtement. Peut-être se sent-il un peu embarrassé et serré comme le premier jour où j'ai mis une chemise blanche et une cravate. Mais enfin, il est content d'être habillé, et c'est lui qui a voulu l'être. Et en cela, il a découvert un aspect très important de la liberté chrétienne, qui consiste à penser aux autres et à être plein d'égards envers eux. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns envers les autres, par honneur usez de prévenance réciproque, écrit Paul au chapitre 12 des Romains. Et le vêtement fait partie de ces prévenances réciproques dont nous devons user. La nudité de se posséder était une manière d'insulte à ses semblables. Et par elle, si vous me pardonnez l'expression, il disait les saints lettres à la société. Maintenant, il respecte les autres. Il n'essaie pas d'affirmer sa liberté contre les autres. Il l'exerce en vue de leur bien. Être libre ne signifie plus pour lui être agressif, mais au contraire, être plein de douceur et de patience, plein de respect envers chacun. Et un autre détail dans les récits des évangiles, dans un autre récit des évangiles, nous fait aussi découvrir le vêtement comme une marque de respect. C'est le récit de la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus, celle qui est rapportée dans l'évangile de Jean. Les disciples sont en train de pêcher et Jésus se trouve sur le rivage. Ils ne le reconnaissent pas au premier abord. Mais tout d'un coup, Jean le reconnaît et il dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et dès que Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, et qu'il dit, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Pierre était nu pour pêcher, parce que c'était plus pratique. Et cette tenue était parfaitement normale pour la pêche. Et en faisant ainsi, il ne manquait pas d'égard envers ses compagnons, mais pour aller à la rencontre de Jésus. Pour aller à la rencontre de celui qu'il tient pour son sauveur et son maître, il s'habille et il marque par là tout le respect qu'il éprouve pour lui. Et son geste s'apparente à celui du travailleur qui enlève son tablier ou son bleu de travail pour accueillir quelqu'un. La liberté chrétienne consiste en ceci. On est libre de marquer aux autres le respect que l'on a pour eux. Au lieu de s'habiller sans tenir compte des autres, ou alors dans le désir manifeste de les choquer, ou de les éblouir, de les séduire, mais ils ne voulaient pas de Jésus. Ils étaient esclaves de leur confort, de leur argent. Ils ne voulaient pas de perturbation. Et ils voulaient avant tout qu'on leur laisse la paix. Ils avaient bien conscience que Jésus était un maître. Et ils ne voulaient pas de ce maître, parce que l'argent était déjà leur maître. Être assis au pied de quelqu'un, c'est la position caractéristique du disciple à l'égard de son maître. Et c'est même, à l'époque, un terme technique. Lorsque Paul veut dire qu'il a étudié sous la direction de Gamaliel, il dit « j'étais assis au pied de Gamaliel ». Cette position symbolique implique une différence entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné. L'un est au pied de l'autre. Le maître est au-dessus de son disciple. Nous n'allons pas maintenant nous embarquer dans de périlleuses réflexions sur la notion et la différence entre enseignant et enseigné. Laissons cela aux pédagogues. Nous ne parlons pas d'un maître humain, mais de notre divin maître, Jésus-Christ. Certains pensent que pour être libre, il ne faut avoir aucun maître. Il faut se former un jugement soi-même et ne recevoir l'instruction de personne. Et quand l'homme de Gadara était possédé, il n'avait apparemment pas de maître. Et il aurait été absolument impossible de l'asseoir aux pieds de qui que ce soit, même avec des chaînes. Mais il avait un maître terrible qui le tenait en son pouvoir. L'homme a toujours un maître. L'homme autonome, ça n'existe pas. C'est une fiction. Le diable est un malhonnête qui prétend offrir à l'homme la liberté alors qu'il veut la servir toujours davantage. Être libre, pour l'homme qui est une créature, ce n'est pas être sans maître, c'est servir un bon maître. Un maître qui garantisse notre liberté dans l'obéissance à sa volonté. C'est le péché qui a introduit le divorce entre l'obéissance et la liberté. En Jésus-Christ, nous voyons les deux se marier parfaitement. Je donne ma vie, dit-il. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Je crois qu'il est impossible de trouver une expression plus parfaite de la liberté. Et Jésus ajoute, juste après, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est en accomplissant la volonté de son Père que Jésus est parfaitement libre. Et ainsi le chrétien trouve l'obéissance, trouve la liberté dans l'obéissance à la volonté de son Seigneur. Il la trouve dans l'obéissance de la foi, produite par le Saint-Esprit. Selon le mot de Paul, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté pour comprendre l'Écriture. Et la liberté pour la mettre en pratique. Il y aurait beaucoup à dire sur le rapport entre le Saint-Esprit et la liberté. Le Saint-Esprit est comme le vent. Il souffle où il veut, aime-t-on à répéter aujourd'hui. Où il veut, lui, oui. Mais pas n'importe où. De grâce, ne faisons pas du Saint-Esprit un saint courant d'air ou une sainte girouette qui tourne à tous les vents de notre fantaisie. La liberté donnée par le Saint-Esprit, c'est celle d'accomplir la volonté du Seigneur telle qu'elle est clairement exprimée dans sa parole. Et le Saint-Esprit nous a fait savoir dans quel sens il soufflait. Du maître vers le disciple, pour que celui-ci comprenne et obéisse. Et nous allons voir cela se réaliser dans la personne de cet homme. Après avoir écouté Jésus, après avoir été assis à ses pieds, il se met à sa disposition. Il est prêt à le suivre partout où il ira. Il est libre pour servir. Il n'est pas embarrassé comme d'autres que Jésus a appelé à le suivre et qui lui ont demandé la permission, celui-ci, d'enterrer son père, celui-là de prendre congé des siens. Lui, la permission qu'il demande, c'est de pouvoir rester avec Jésus. Il lui demanda la permission de rester avec lui. Et cela nous donne l'occasion de nous arrêter sur une cinquième manifestation de sa nouvelle liberté. Il désire être et rester avec Jésus. Dans notre langage, on dit de quelqu'un qui n'est pas marié qu'il est libre. Et quand quelqu'un se marie, on dit en plaisantant qu'il se met la corde au cou. Et lorsque l'amour ne règne pas, le mariage peut en effet être un esclavage. Mais le désir de deux êtres qui s'aiment est de vivre ensemble. Et pour eux, la séparation n'est pas la liberté, mais le vide. La liberté n'est pas une chose en soi, indépendante de tout le reste. Elle est liée aux autres réalités de l'existence, et en particulier à l'amour. Dans un sens, l'homme de Gadara perd sa liberté en déclarant vouloir rester toujours avec Jésus. Mais quelle liberté perd-il ? Celle d'être seul à errer près des sépulcres ? C'est Christ qui détermine sa liberté. Être avec lui, c'est être libre. Être loin de lui, c'est ne plus l'être. Le chrétien est libre quand il est avec son Sauveur, quand il jouit de sa présence, dans la lecture de sa parole, dans la prière, dans la réunion des fidèles, même dans son travail aussi de chaque jour. Cette présence n'est peut-être pas ressentie tous les jours avec la même intensité. L'essentiel, c'est qu'elle soit assurée par les promesses de Jésus-Christ. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La liberté du chrétien, c'est d'être sûr de la présence de son Seigneur, ici-bas et pour toujours, d'être certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations et toutes ces autres choses ne peuvent le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et enfin, nous voyons sa liberté se manifester d'une sixième manière. Dans l'acceptation de la volonté de Jésus-Christ et dans le renoncement à la sienne. Son désir de rester avec Jésus, de le suivre partout où il irait, était parfaitement louable. Il voulait l'accompagner, il voulait être toujours avec lui. Mais nous voyons dans les récits que Jésus, dans un sens, va le décevoir. Il va le renvoyer, comme dit l'évangile de Luc, en lui disant, « Va vers les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. » Et comment il a eu pitié de toi. Lorsque l'on a de bonnes intentions, il est très dur de les voir contrariées. Et d'autres, à la place de cet homme, auraient dit à Jésus, « Puisque tu n'apprécies pas mon dévouement et que tu me demandes le contraire de ce que je te propose, eh bien je ne le ferai pas. » Cet homme se plie à la volonté de Dieu. Et il accepte, et de bon cœur, ce que Jésus lui demande. Ce qu'il propose à Jésus, ce n'est pas sa manière de voir les choses, ou bien je t'accompagnerai, ou bien je ne ferai rien. mais sa disponibilité. Ce que tu voudras, je le ferai. Il n'est pas esclave de ses bonnes intentions, comme il nous arrive souvent de l'être. Quand pour une fois nous sommes bien disposés, nous en sommes tellement heureux, tellement contents, que nous avons l'impression que le monde entier devrait se mettre à genoux pour nous en rendre grâce. Mais voilà, personne n'est à genoux, et beaucoup ne comprennent pas nos bonnes intentions, et d'autres les méprisent. Et alors nous sommes déçus, nous sommes parfois aigris, et nous renonçons à nos bonnes intentions. Et nous disons, puisque c'est comme ça, je n'aurai plus de bonnes intentions. L'homme de Gadara ne renonce à rien, si ce n'est à lui-même. Et c'est avec enthousiasme qu'il se range à la vie de Jésus et qu'il accomplit ce qu'il lui demande. Il ne va pas non seulement chez les siens, mais il fait plus encore. Il publie par toutes les villes de sa contrée tout ce que le Seigneur a fait pour lui. C'est là la pierre de touche de la liberté chrétienne. Renoncer à sa propre volonté au profit de celle de Dieu. Faire la volonté d'un autre apparaît comme la négation même de la liberté. Être libre, pensons-nous, c'est faire ce que l'on veut. Mais quand cet autre dont on fait la volonté est Dieu, et quand l'obéissance vient du cœur par le Saint-Esprit, c'est dans cette soumission-là que se trouve la liberté. C'est en restant soumis à la volonté de son Père Céleste que le chrétien est dans son élément et jouit de la liberté. En repassant l'histoire des hommes de la Bible, depuis Adam jusqu'aux apôtres, nous verrions en négatif et en positif que la liberté, c'est de faire la volonté de Dieu. Et l'exemple suprême de cette liberté nous est donné par notre Sauveur Jésus-Christ, qui au jardin des Oliviers a souffert et prié, disant que ta volonté soit faite et non la mienne. Adam a perdu notre liberté en sortant de la volonté de Dieu. Jésus-Christ nous a acquis le salut et la liberté en renonçant à sa volonté propre, qui pourtant était bonne pour accomplir le dessein éternel de salut, préparé par Dieu avant la fondation du monde. C'est là où la volonté de Dieu s'accomplit que la liberté se trouve. C'est faire être libre, c'est faire ce que Dieu veut, avec la force, la joie, la spontanéité que Dieu donne. Cette étude est évidemment incomplète. Il y a bien des aspects de la liberté chrétienne qui ont été passés sous silence. Mais il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres. Et il y a des choses sur lesquelles il faut insister lorsque les circonstances et la mentalité de l'époque l'exigent. Et je crois que ce qu'il faut souligner surtout, lorsqu'on parle de liberté chrétienne, c'est que de ces deux mots, liberté chrétienne, le plus important n'est pas liberté, mais chrétienne. C'est Christ qui fait la liberté. Ce n'est pas la liberté qui fait Christ. Là où est Christ, là est la liberté. Et si notre vie manque de liberté, c'est qu'elle manque de Christ. S'il n'y a pas dans notre vie cette liberté dans l'obéissance, cette liberté dans nos rapports les uns avec les autres, c'est qu'elle manque de Christ. Ce n'est pas en recherchant la liberté qu'on la trouve. C'est en vivant avec Jésus-Christ et pour lui qu'on se découvre libre. Redonnons à notre vie ce qui lui manque en nous rapprochant de Jésus-Christ, en nous rapprochant du Fils qui rend réellement libre. Amen.